Et faire le distinguo, on parle beaucoup de bois déchiqueté, mais dans le bois raméal fragmenté, déjà on est sur de la fragmentation, donc une opération mécanique. Et quand on dit bois déchiqueté, on serait tenté de croire que tout peut passer, c'est-à-dire y compris le bois collinaire, le bois de tronc, le bois de branche, les grosses racines. Quand on dit bois raméal fragmenté, puisque c'est raméal qui nous intéresse, raméal indique bien la partie de l'arbre qui nous intéresse, c'est-à-dire le rameau. Et le rameau, c'est ce qui porte les feuilles qui vont effectuer cette opération absolument nécessaire pour les humains et tous les êtres vivants qui respirent sur Terre, la photosynthèse. Et que sans doute, et là ce sont les travaux de l'Université de Laval qui l'ont quand même révélé, ainsi que l'Université de Kiev, dans les rameaux sont stocker la plus grande partie des micronutriments qui vont permettre aux arbres au printemps de redémarrer leur végétation. C'est-à-dire que lorsque, comme en ce moment, on est en sève descendante, une grande partie des nutriments qui sont contenus dans l'arbre vont être stockés sous forme gazeuse et liquide dans les rameaux. Donc les rameaux sont ces petites branches. Les Québécois ont indiqué un diamètre de 7 cm, mais ça n'est pas un critère physiologique ou biologique, c'est un critère économique. Les forestiers au Québec et au Canada, tout comme chez nous il y a quelques années, n'avaient pas de valorisation pour les bois qui font moins de 7 cm de diamètre, c'est-à-dire que c'était considéré comme un déchet, alors qu'en fait, ce que je viens de vous dire juste avant, on sait maintenant que c'est sans doute la partie la plus riche de l'arbre. Cette explication faite, on peut, et là je vais vous décrire la technique en 4 points, et qui est une technique que chacun peut arranger à sa sauce, en sachant que c'est un peu un monde nouveau qui apparaît pour l'agriculture, le jardinage, et aussi, je vais plus loin, notre conception du vivant. Cette partie de l'arbre qui est la plus riche est considérée encore comme un déchet, sauf dans certains cas, notamment pour le chauffage plaquette. Et que pour mettre en application ce qu'on appelle la technique ou le matériau, et là, bon, libre à chacun d'utiliser le terme qui convient, ça implique de respecter la saisonnalité, surtout dans nos pays tempérés. C'est-à-dire que c'est à partir de maintenant qu'on peut faire du bois raméal fragmenté. Ça n'est pas au mois de mai, au mois de juin, ni même au mois d'août, bien que le mois d'août, on considère que lorsque les bois ont outé, on va tomber en sève qui va arrêter de fonctionner aussi rapidement qu'elle le faisait en période de végétation, et que cette saisonnalité doit être respectée si on veut obtenir les effets maximums. Les effets maximums seront obtenus lorsque on coupera les branches des feuillus, alors qu'ils soient persistants ou caducs, c'est-à-dire qu'avec chez nous on a du chêne vert, ça fonctionne aussi avec du chêne vert. Le problème des feuilles n'en est pas forcément un. Que on coupe ces branches à partir du moment où les bois ont outé, mais moi je préfère faire ça en fin septembre, octobre, jusqu'en décembre. Et là, on est en dormance, donc les bois ce sont les bois dormants. On peut couper les branches à partir de septembre et les broyer qu'au mois de décembre, parce que le capital ne va pas s'en aller. Que ce stock de branches pour l'opération mécanique mérite d'être stocké pour éventuellement ne pas avoir à se servir du broyeur plusieurs fois dans l'année, enfin plusieurs fois à la saison du broyage. La deuxième opération, une fois que la coupe est faite, c'est le broyage, qui se fait avec une machine, et je crois que tout à l'heure on aura l'occasion de voir une démonstration. Le broyeur qui fonctionne à l'énergie fossile, et là c'est un problème qu'il faut aussi considérer. Mais j'ai des solutions, si j'ai un peu de temps, j'aimerais vous en parler, mais on verra après. Cette opération de broyage se fait de préférence avec un broyeur à couteau, pour faire ce que les Québécois appellent des chips, c'est-à-dire des rondelles. Ces rondelles vont permettre notamment la colonisation par les champignons, par le côté coupé. Les champignons vont s'introduire dans la fibre du bois. Le calibrage, on le verra sur place, mais le calibrage est relativement peu important. C'est pas ça qui donne, c'est pas un critère de bon fonctionnement ou de mauvais fonctionnement du bois raméal. Une fois qu'on a fait, et là c'est un distinguo qu'il faut faire, il y a plusieurs écoles qui utilisent le bois raméal fragmenté. Lorsque le broyage est fait, moi je conseille par expérience depuis 6 ans, mais bon, c'est peu, mais c'est quand même assez pour pouvoir en parler. Lorsque le broyage est fait, il faut faire un épandage pratiquement immédiatement. Parce que, notamment, ce qui est stocké sous forme liquide et gazeuse va se trouver perdu par évaporation ou par, lorsque ça commence à composter, par brûlage. Lorsque l'épandage a été fait, le plus tôt possible en saison, c'est-à-dire pratiquement en ce moment, c'est la saison idéale pour faire la coupe, le broyage et l'épandage. Lorsque l'épandage a été fait, on laisse cette couche de 3 cm. Alors ça, c'est encore un critère que l'Université de Laval ainsi que l'Université de Kiev ont mis en avant. Ça ne sert à rien d'en mettre plus, mais il ne faut pas en mettre moins. Alors 3 cm, c'est entre 3 et 5 cm. Lorsque l'épandage a été fait, il y a une quatrième opération que moi je fais au printemps et chez moi j'attends toujours les saints de glace, donc même si les années passant on se rend compte que ce repère-là n'est plus tellement efficace, il va falloir en trouver d'autres. Je fais ce qu'on appelle l'incorporation. Alors l'incorporation est afin d'obtenir, et là on ne va pas rentrer dans la pédologie, mais consiste à essayer d'obtenir un modère et pas un mule ni un mort. Et que cette opération d'incorporation se fait sur 5 à 10 cm d'épaisseur, et que lorsqu'elle est faite, on peut semer, planter, repiquer. Là, je vous parle pour ce qui n'est pas vraiment notre propos, c'est-à-dire, on devrait parler des arbres, mais là, je vais vous parler quand même des plantes annuelles, puisque je suis maraîcher et que c'est ce qui me préoccupe en premier. Pour ce qui concerne la plantation des arbres, on sait et on s'est aperçu, et là ce sont les Africains qui ont pris, en tout cas en ce qui concerne l'expérience pragmatique de l'utilisation du bois raméal fragmenté, au Burkina Faso, on fait pousser des arbres sur des sols déjà en BRF, et la constatation faite, c'est que les plants ont un développement racinaire de 150 à 160%. C'est-à-dire que les arbres poussent et développent un système racinaire beaucoup plus important que sur des sols sans BRF. C'est par rapport à la ressource des branches, et c'est vrai que chez moi, dans le Lot et sur les causes du Quercy, on est sur un département où il y a 160 000 hectares d'espaces boisés, donc la ressource ne manque pas, puisque en plus ce sont des parcelles qui ne sont plus du tout utilisées pour le pastoralisme, et que l'embroussaillement, la fermeture du paysage, d'ailleurs ça c'est un problème aussi qui est récurrent dans les zones où la déprise agricole fait rage, on est sur de la fermeture de paysage et d'espaces boisés qui ne sont pas utilisés, ou s'ils sont utilisés c'est entre 10 et 15%, guère plus. Et que donc pour nous, quand on fait de l'agriculture avec BRF dans le Lot, le problème de la ressource n'en est pas un. On peut citer quand même des exemples de villes où on se sert du bois raméal fragmenté pour les arbres, et notamment les arbres d'alignement en bordure d'avenue. Il y a la ville de Poitiers qui fait ça depuis 2006. Il y a Bordeaux qui s'en sert pour ses parcs et les arbres qui sont dans les parcs. Il y a la ville de Rennes. Et il y a de plus en plus de villes, hein, puisque à côté de chez moi, il y a une petite ville qui s'appelle Decazeville, où un aménagement routier a été fait avec des talus en BRF. Alors, pour parler du paillage, puisque c'est le titre de la journée, c'est vrai que quand on m'a invité, et d'ailleurs je vous remercie de m'avoir invité, parce que j'aime bien parler de ça, parce que ça fait longtemps que je le fais, et je pense que c'est quelque chose qui doit se répandre, y compris dans les jardins familiaux, parce que c'est en général facile à faire, parce qu'il y a notamment, quand on parle de la ressource, il y a des élagueurs qui sont des gens qui, tous les ans, charrient des dizaines, des centaines, voire des milliers de mètres cubes de branches qui ont été taillées et qui, la plupart du temps, vont dans des délaissés ou sont brûlés. Et là, je parle de mes petits copains agriculteurs qui font du bois de chauffe et qui, parce que ça fait sale sur la parcelle, vont faire des tas de branches et vont les brûler. C'est une ressource qui... On voit bien qu'on n'a pas encore identifié le gisement, mais le gisement est absolument énorme. Pour citer la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le département du Vaucluse, les lignes SNCF, TGV et les réseaux autoroutiers produisent mais des milliers de mètres cubes pour le département du Vaucluse, tous les ans. Et tous les ans, ça part pour faire la plupart du temps du mauvais compost, parce que faire du compost, c'est pas évident, même dans une station. Et que cette ressource-là, elle est considérée comme un déchet. Alors que, comme je vous l'ai dit, c'est la partie la plus riche de l'arbre. Alors là, c'est un petit clin d'œil quand même qu'on pourrait faire à la richesse et à la pauvreté. Il y a peu, c'est-à-dire en l'espace d'une vie, c'est-à-dire il y a 50 ans environ, on continuait de ramasser les fagots, les brindilles dans les sous-bois, en tout cas dans le Lot, qui servaient à allumer le feu dans la cheminée ou faire la cuisine dans la cuisinière. C'était considéré comme un déchet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'utilisation. Or, on brûlait, et en Afrique, on le fait encore, on brûle la partie la plus riche de l'arbre. Alors, pourquoi la partie la plus riche ? Parce qu'en fait, ce stockage dans les rameaux est, en termes de micronutriments, 5 à 10 fois supérieur à ce qui est contenu dans les rameaux lorsque c'est en période de végétation. Alors là, il y a des résultats, je n'ai pas la bibliographie en tête, mais des résultats d'études américaines et canadiennes qui font la démonstration que c'est ce moment de l'année où les rameaux stockent ces micronutriments. Lorsqu'on les met sur le sol, il est évident que à la saison où on le fait, c'est-à-dire en ce moment, et là je croise les doigts parce que chez moi il n'a pas plu depuis le 4 juin, en général on va tomber dans une saison où il va pleuvoir et où un lessivage de ce broyat posé sur le sol va descendre en profondeur des éléments nutritifs. Alors, je me pose plein de questions, hein. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je me pose plein de questions, parce que j'ai eu la visite, c'était il y a 3 ans, d'un monsieur qui s'appelle Louis Bonnet, qui était chercheur, puisqu'il est à la retraite maintenant, à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et qui est venu chez moi. Il a, je crois, maintenant 76 ou 77 ans. Il a 82 ans, donc il avait 79 ans. Il est venu avec sa Fiat Panda de Toulouse chez moi, c'est-à-dire 2h30 de route. Il s'est mis à genoux, c'est un chercheur, il s'est mis à genoux sur la terre, et il a fait des prélèvements de sol, et je ne sais pas s'il y a encore un jeune chercheur ou quelqu'un qui est étudiant-chercheur qui serait prêt à se mettre à genoux, les genoux dans la terre, pour faire des prélèvements de sol et faire des analyses. Et ce monsieur Bonnet est venu... faire des prélèvements parce que le sujet de sa vie de chercheur, ça a été les teca moebiens. Voilà, les teca moebiens, un organisme invisible à l'œil nu qui est sur tous les continents de la planète, qui date de la Pangée, c'est-à-dire du continent unique, et que c'est un... Alors lui a fait plein de recherches là-dessus, a déterminé que c'était un des éléments indicateurs pour notamment les terres trufficoles. Alors, le département du Lot, je ne dirais pas, j'ai une truffière, et depuis maintenant quelques années, il n'y a plus de truffes, parce que les étés à répétition, sans la pluie du mois de mai ou du mois de juin, les truffes, encore les champignons, la truffe ne trouve pas, c'est pas son terrain. Quoi. Et ce monsieur Bonnet a trouvé des teca moebiens sur mes terres, et a trouvé des choses assez étonnantes, notamment, je suis sur des terres qui sont limono-argileuses, où il y a beaucoup de fer. Et il a trouvé des états de transformation du fer sur mon sol en BRF qu'il n'a pas trouvé sur les autres terres, je dirais sur le témoin. Donc, pour vous dire que ces fameux TK moébiens qui ont une capacité de s'enquister, c'est-à-dire de se faire une tech, d'où leur nom, sont capables de tenir 50 à 60 ans dans la tech en attendant que des conditions favorables leur soient à nouveau procurées pour se développer, c'est-à-dire dissoudre la tech et se prospérer et se multiplier. Vous allez me dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec, avec le bois raméal fragmenté. Si, ça a beaucoup à voir, parce que ça veut dire que sur des sols où on a sols agricoles, là aussi c'est important de bien faire la distinction, quand on parle des sols, la plupart du temps on dit oui les sols s'appauvrissent, mais on fait déjà assez peu la distinction entre les sols agricoles et les sols forestiers. Et on sait, puisqu'on le vit depuis qu'on a inventé l'agriculture, la forêt c'est notre ennemi. En plus je suis originaire de Beauce, alors ça je ne vous l'ai pas dit, mais je suis originaire de Beauce, et en Beauce, ben, l'arbre ça va nous faire perdre à au moins 20 mètres carrés quoi. Et l'arbre isolé dans le champ, 20 mètres carrés de blé, vous imaginez, quand on est à 115 hectares, ça, pas question, on le coupe. Donc, on est sur ces problématiques de le sol forestier, et ça, ce sont les travaux de Laval, que l'Université de Laval, que je vous conseille de lire pour certains, parce qu'ils sont assez facilement compréhensibles. Les sols que nous cultivons actuellement ont été, mis à part les steppes d'Asie centrale, d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, ont été des sols forestiers. Et que ces TK moébiens, qui sont toujours là, quoi, ce sont des êtres vivants qui sont, mais on pourrait croire indestructibles, mais on peut les réveiller, et notamment eux, parce que ils dépendent un peu d'un système de fonctionnement de fertilité du sol qui est de type forestier. Donc le BRF, dans un raccourci sidéral, c'est le copier-coller du système forestier sur un sol agricole. Moi, ce que j'ai remarqué depuis 6 ans sur mon sol de Causse, alors pour vous le décrire rapidement, c'est j'ai entre 30 et 35 cm d'épaisseur de sol, ce qui fait que ça fait assez peu. J'ai entre 35 et 40% de cailloux, et je suis limono-argileux. Je suis drainant, c'est-à-dire que les pluies qui tombent en hiver, il faut que ce soit accompagné de pluies du printemps pour qu'on puisse y cultiver des céréales, et que tous ces handicaps-là, alors, je vous dis pas, mais en hiver, ce sont des terres qui sont amoureuses, c'est-à-dire que ça colle bien aux pieds. Et en été, c'est des crevasses et c'est dur comme du béton. On n'y rentre pas un outil. La première année que j'ai commencé, en 2004, j'ai épandu sur une parcelle de 500 m² du broyat de platane, parce que le platane, ça marche relativement bien, avec une petite nuance en ce qui concerne les feuilles. J'ai épandu cette couche, et relativement tardivement, c'est-à-dire que j'ai fait ça en février, j'ai fait venir un laboratoire d'analyse qui fait des diagnostics de fertilité selon la méthode Erodi. Alors, j'en parle un peu dans mon bouquin de cette histoire-là. Erodi, c'est un agronome qui a une certaine idée du fonctionnement des sols, sujet à controverse, mais c'est un bon indicateur de la tendance du sol dans son fonctionnement. Ce monsieur est venu, et la première chose qui l'a complètement sidéré, c'est qu'on pouvait rentrer un outil sur 15 à 20 cm de profondeur sans aucun effort, alors que sur la parcelle témoin, il n'était pas question d'y rentrer pas plus de 3 cm. Ça s'est fait entre février et mai, sans aucun travail du sol préalable, uniquement en y posant la couche de broyat de entre 3 et 5 cm d'épaisseur. Ce fonctionnement-là, il faut dire que moi aussi, ça m'a assez interloqué, parce que mes voisins, les plus jeunes comme les plus anciens, m'ont dit ton histoire, pour remettre dans le contexte, c'était en 2004, et 2003, j'avais semé du blé, et j'avais rien récolté, parce que 2003, il y a eu la canicule, et une sécheresse infernale où c'était même pas la peine de faire venir la moissonneuse. Donc, dans ce contexte-là, mes voisins m'avaient dit « Mais ton histoire, ça peut pas tenir parce que on a l'habitude de les cultiver, ces terres-là. C'est vrai que c'est une combe qui a un peu de sol, mais y faire pousser des carottes, comme je leur avais dit que j'allais faire pousser des carottes au milieu de 35 à 40% de cailloux. Donc évidemment, on m'a dit « Mais tes carottes, elles vont être tordues ou elles vont être fourchues ou elles vont s'arrêter, elles vont pas pouvoir pousser. » Bon, quand j'ai sorti des carottes qui faisaient 20 à 25 cm de long, qui étaient bien droites, certains ont commencé à faire courir des bruits, parce que c'est bien aussi quand on est un étranger et qu'on arrive dans un pays, le fada ou l'étranger qui veut faire pousser des carottes sur le sol de Causse, ça fait bien rigoler, ça rappelle des films hein, d'ailleurs. Pareil, je me lève la nuit pour arroser, parce que aussi, ça c'est important. En 2004, lorsque j'ai fait cette expérience-là, je me suis dit, j'ai passé l'hiver 2003-2004, suite à la sécheresse, à lire les publications de Gilles Lemieux, de l'Université de Laval. Avant ça, j'étais passé, parce que c'est par Internet que j'ai trouvé ça, j'étais passé par le comité Jeanpin de Bruxelles. Le comité Jeanpin de Bruxelles, sur son site, avait une page où c'était marqué BRF. Et donc, je me suis aperçu, en relisant les textes de Jeanpin, que pour faire le fameux compost de broussailles, il fallait énormément d'eau. Et moi, sur les Causses, mais je ne vous l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'eau, quoi. Il n'y a pas de source, la rivière, elle est loin. Et pour trouver de l'eau, pour trouver des poches d'eau, il faut descendre à plus de 80 mètres de profondeur. Donc, je suis sur le plateau karstique piémont du Massif central. En ayant donc constaté que la méthode Jeanpin, ça ne me convenait pas, j'ai trouvé Boire à Méal fragmenté, les textes de Gilles Lemieux, et aussi, bizarrement, j'y ai repensé tout à l'heure, à Pontcarré, je pense, Pontcarré, c'est pas très loin d'ici, c'est en Seine-et-Marne, à Pontcarré, il y avait un monsieur qui s'appelle Gérard Martin, que je revois de temps en temps, qui a fait venir Gilles Lemieux deux fois de suite, et qui a été, je pense, un des premiers à faire du BRF, en sachant ce que c'est que le BRF. Et ce monsieur Gérard Martin a travaillé pendant plusieurs années à cette station de déchets verts et a participé sans doute un peu au développement, même si c'était il y a 15 ans, plus de 15 ans, presque 20 ans maintenant, a participé au développement d'une nouvelle approche. En ayant découvert les textes de Gilles Lemieux, je me suis dit, je vais appliquer la méthode et le protocole de façon complètement bête et disciplinée, en laissant tout ce que j'ai appris dans les écoles, dans les formations. Je suis agriculteur certifié en bio, donc on nous apprend des choses, on nous dit que ça fonctionne comme ça, que les plantes ceci, que les plantes cela. Très rarement on parle du sol d'ailleurs, on en parle, mais bon, à la limite c'est presque un accessoire qui suffit de nourrir un peu en éléments minéraux, puis les plantes elles vont se démerder. Quand j'ai mis en application, je me suis dit, tes semis tu vas les faire sans arrosage, tes repiquages tu vas les faire sans arrosage, et j'ai fait tout ça, et je n'ai pas arrosé du tout sur les Causses du Quercy, où en été on a des températures quelquefois qui sont, comme cette année, entre 39 et 40 degrés, dans une combe où il n'y a pas d'arbres alentour, où ça prend le soleil du matin jusqu'au soir, et où je pense maintenant, avec cette année sèche qu'on vient de vivre encore, c'est un peu comme si on était dans un pays tropical, mais sans avoir la saison des pluies, et sans la disponibilité d'un puits même. Et cette année 2004, elle a été la concrétisation qu'il était possible de remettre un fonctionnement du sol de façon presque forestière, uniquement par l'application des rameaux broyés et laissés sur place, mais enfouis, ou en tout cas incorporé, à partir du printemps. Donc c'est évident que quand j'ai commencé à voir ces résultats-là, j'ai été très étonné. Je suis passé par ce qu'on appelle, et là c'est pour certains, pour ceux qui ont eu un peu accès à la littérature, de vulgarisation peu nombreuse. Il y a deux ou trois bouquins en France. Il y a le mien, il y a celui de Gilles et Léa, et je crois qu'il y a quelques autres qui en parlent, mais il y a très peu de vulgarisation. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qu'on pouvait mettre en application simplement, et c'est le conseil que je vous donne. Si Vous avez suffisamment d'ingénuité, parce que je pense qu'il faut, par rapport au vivant, être relativement ingénu, dire que ce qu'on sait, ben, on le sait, mais ça n'est pas forcément la vérité, ou en tout cas la vérité entière, sur la description des mécanismes qui font que le sol forestier qui est devenu agricole, qui nous nourrit, et là j'insiste bien, le lien entre agriculture et alimentation, on en parle beaucoup maintenant, mais c'est quelque chose qui est fort en termes d'impact, c'est-à-dire que je pense que les générations qui viennent vont payer, nous peut-être en premier, mais nous on est presque au bout, enfin moi en tout cas on arrive au bout, quoi, on arrive au bout d'un chemin, mais mes enfants, enfin nos enfants, nos petits-enfants vont sans doute payer un lourd tribut à l'agriculture qui a complètement mis de côté que ce qui en sortait, c'est-à-dire l'alimentation, c'était la santé humaine et aussi, est-ce que l'espèce humaine va continuer à vivre sur la Terre ? Je ne me fais pas de soucis pour le vivant en général, mais l'homme, à la limite, ça pourra très bien fonctionner, peut-être même mieux, enfin là, je ne veux pas exagérer quand même, mais peut-être même mieux que avec ce qu'on a dégradé, mais en l'espace de une ou deux générations, et ça s'est accentué la dernière génération, on a bousillé un sol qui a mis, allez, la forêt de feuillus, c'est 60 millions d'années. C'est quand même impressionnant, 30 ans, 30, 40 ans, et un sol qui nous nourrit, qui a des millions d'années, et on bousille ça pour, ben, sans doute que le vivant est quantifiable et monnayable. Donc, là, si vous avez sous les yeux la plaquette, il y a plusieurs photos qui devraient être là, et notamment une qui concerne la gestion de la ressource. Alors, chez moi, j'ai des espaces boisés, et je... Oui, c'est ça. ça, c'est un tas de branches que j'ai fait en faisant un chantier collectif, parce que, et là, je voudrais aussi en parler un peu... le bois raméal fragmenté, à mon avis, va avec une nouvelle façon de concevoir et l'agriculture et le fonctionnement social de nos sociétés, surtout les régions comme les nôtres, enfin comme la mienne, où on est de moins en moins d'agriculteurs. C'est-à-dire que sur le village où j'habite, 450 habitants, on est 6 agriculteurs. Dans 2 ans, il n'y en aura plus que 3. Et... dans 10 ans, il n'y en a plus. Par contre, il y a plein de candidats. Mais plein de candidats qui ne peuvent pas s'installer. Parce que l'accès à la terre, c'est l'accès au foncier, c'est comme l'alimentation, c'est financier. C'est régi selon des termes qui ne sont que financiers. Donc, gérer la ressource, ça veut dire que dans notre environnement proche, alors moi, ce que je conseille, c'est de prendre... rien que prendre les pages jaunes, de regarder à entretien, parcs et jardins, paysagistes, élagueurs, et de téléphoner à tous ces gens-là, mais de façon systématique, et puis de prendre rendez-vous avec eux. Moi, c'est ce que j'ai fait chez moi. J'ai pris rendez-vous avec un élagueur qui habite à une dizaine de kilomètres de chez moi, et on a commencé à parler arbres, et sans doute parce que c'est un élagueur taille douce, c'est un grimpeur, tout de suite, on est tombé d'accord sur ce matériau-là, il ne faut pas l'emmener à la déchetterie. Ce matériau-là, il doit retourner d'où il vient, c'est-à-dire qu'il doit retourner à la terre. Donc, faire ce petit pas de téléphoner et de s'apercevoir que ces gens-là m'écharrient des dizaines et des centaines de mètres cubes de broyat, parce que réglementairement, ils sont obligés de réduire le volume de leurs déchets, puisqu'on est sur du déchet, que ça leur coûte, alors chez vous, je ne sais pas, mais chez moi, c'est 50 euros la tonne, le dépôt en déchetterie. Une tonne, c'est 2 mètres cubes et demi, 3 mètres cubes de broyat. Que si on leur dit, alors j'oubliais, il y a la DDEA aussi. La DDEA, c'est aussi un fournisseur de broyat énorme. Et alors, enfin, moi, j'ai beaucoup de sympathie pour eux, mais en plus, ils n'aiment pas trop aller faire des allers-retours à la déchetterie. Donc il suffit d'un repas ou une bonne bouteille, et en général on a 2, 3, 4 camions qui arrivent, même si on en a demandé qu'un d'ailleurs, 3-4 camions de quelques mètres cubes et ça fonctionne très bien parce que eux sont... Quand ils font un chantier d'élagage, ils récupèrent déjà le bois de chauffage pour eux, pour leur cheminée, et puis le reste, bah, s'ils peuvent gagner une demi-heure, et je les comprends, bah, ils préfèrent les laisser chez un particulier pour faire le jardin. Donc gérer la ressource, c'est ça, ça veut dire prendre conscience de localement, les gens qui s'occupent des arbres, ce sont des gens qui sont proches, et qu'il suffit de leur parler pour des sommes relativement dérisoires. On peut faire son jardin. On n'a pas parlé chiffres. Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner des chiffres qui font peur. Pour un hectare, il faut combien de mètres cubes de broyat ? Il faut 300 mètres cubes de broyat. Pour faire un mètre cube de broyat, combien faut-il de volume de branches ? Alors là, c'est quelque chose de pas très précis, mais c'est entre 12 et 15 mètres cubes de branches pour faire un mètre cube de broyat. Donc, pour faire un hectare, faites l'opération, et là, vous vous dites, ce truc-là, c'est pas possible. Quand on prend le problème du BRF de ce côté-là, on se dit, oui, c'est pas possible. Parce que, et c'est le discours que j'entends régulièrement, si toute la planète se met à faire du BRF, on va couper toutes les forêts. Prenons le problème à l'envers. J'ai un jardin qui fait 10, 5, 20, 30, 100 mètres carrés. Pour 100 mètres carrés, il faut... 3 mètres cubes de broyat. 3 mètres cubes de broyat, c'est pratiquement rien. Et 3 mètres cubes de broyat, vous allez pouvoir les trouver chez les lagueurs, parce que c'est un camion. C'est un petit camion. Donc, on fait le peu qu'on peut faire. Et on voit ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va faire comme un gamin. J'interviens dans les écoles aussi. Et je dois vous dire que quand on parle de forêts, de champignons, de rameaux, qu'on fait du broyat et que les enfants sont là et le prennent, le manipulent, sentent l'odeur que ça a, pour eux, le raccourci est direct. C'est-à-dire qu'ils prennent tout de suite conscience que cette histoire-là, elle correspond à quelque chose qui est presque... du domaine de fonctionnement du vivant. C'est presque du domaine de l'intuitif. Et que faire cette expérience-là quand on est adulte, comme nous, ça nécessite, comme je vous le disais, d'abandonner un peu le fumier, le compost. On fait une parcelle de 1 mètre carré et on voit ce que ça donne. Pour vous signaler aussi que, notamment en Afrique, puisque je fais partie d'une association qui s'appelle AVEBRF, pour valorisation et expérimentation des bois raméo-fragmentés, on aide des pays en Afrique, Mali et Burkina Faso. On a installé des parcelles en BRF en pays Dogon. Et en pays Dogon, ça fait 2 ans maintenant, la première année qui a été une année de démonstration, la deuxième année, le nombre de paysans maliens a été multiplié par 100. Pour avoir une parcelle pour montrer aux voisins. Parce que à Gao, donc le nord du Mali, aux portes du désert, cette année, on a réussi à faire pousser du mil à contre-saison. Chose qui n'avait jamais été possible. C'est un peu comme moi avec mes carottes dans le sol de Causse. Donc, et ça, c'est une des choses dont Gilles Lemieux avait parlé, c'est cette espèce d'universalité d'un phénomène qui est les champignons de la famille des basidiomycètes, dont a parlé M. Gers ce matin, ces fameux champignons basidiomycètes, et ça a été conforté par les travaux de l'Université de Marseille, les basidiomycètes ont cette capacité de bousculer un atome de la molécule de lignine non polymérisée, parce que dans les rameaux, la lignine qui fait la rigidité des arbres n'est pas polymérisée, c'est-à-dire que la molécule n'est pas fermée et que la sécrétion d'enzymes des champignons qui sont des êtres vivants qui sont plus proches de nous que du végétal parce que pour se nourrir, ils sécrètent des enzymes, tout comme nous dans notre salive, pour digérer le repas de ce midi. En ce moment, il y a plein d'enzymes dans la salive et dans l'estomac qui cassent les molécules pour les rendre digestes. Les champignons fonctionnent de la même façon. Mais leur aliment, c'est la lignine non polymérisée des rameaux. C'est pour ça que le phénomène est très rapide parce que la molécule n'étant pas polymérisée, l'accès à ce matériau, à cette matière, la lignine, est très rapide. Parce que cette capacité des champignons par rapport à la lignine, ce sont pratiquement les deux seuls, le champignon est pratiquement le seul être sur Terre capable d'avoir cette fonction-là. Et on peut sans doute laisser supposer que champignons et lignine sont dans la constitution des sols de forêt les deux éléments essentiels. Conforté par une découverte chinoise récente, les racines des arbres, en tout cas dans leurs terminaisons qui sont invisibles à l'œil nu, la lignine est de la même composition que celle qui est dans les rameaux. On est sur... Et là, ça peut être un peu le génie humain. On est sur une capacité de tromper les basidiomycètes en leur donnant à manger du rameau, alors qu'en forêt, c'est plutôt de la lignine de racine dont ils sont friands. Donc, pour dire que cette histoire de BRF, c'est pas non plus de la poudre de perlimpinpin, hein, faut pas s'imaginer que c'est quelque chose comme ça et que ça marche à tous les coups et que c'est pas la peine qu'on connaisse son climat et son microclimat, parce que le microclimat du jardin ou de la parcelle, c'est très important. Le sol que l'on a, dont on a hérité, c'est aussi très important, parce qu'il y a des sols qui sont, alors qu'on dit impossible à travailler, notamment les sols de Boulben dans le sud-ouest, c'est assez courant, mais les sols de Boulben sont quand même travaillables, parce qu'il y a des gens, il y a des anciens qui les ont travaillés, qui ont cultivé là-dessus, et qui connaissent comment ça fonctionne. Un sol de Boulben ou un sol argileux, très argileux, ben, y a des moments, et là c'est l'observation, et quand on fait du BRF, je vous invite à l'observation parce qu'on voit des choses fantastiques, mais c'est l'observation qui va nous faire prendre conscience que c'est peut-être demain qu'on va pouvoir faire notamment l'incorporation du bois raméal fragmenté dans le sol de Boulben. Donc, faire cette opération en ayant soin de gérer la ressource, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de couper tous les arbres, il s'agit de penser que notamment au verger, tous les ans, on fait des opérations de taille, que lorsque l'on gère en bon père de famille les bois ou les forêts, lorsqu'on fait du bois de chauffage, les branches et notamment les têtes de chêne, c'est un des matériaux idéaux pour faire du bois raméal fragmenté. Que lorsque l'on a taillé les arbres fruitiers ou la haie ou éclairci un peu le sous-bois, le végétal, lui, continue de pousser. C'est-à-dire qu'on y revient tous les 4 à 5 ans seulement. C'est-à-dire que la période, l'année où on a coupé, on y retourne 4 à 5 ans après et le végétal a fait plus de bois que ce qu'on lui a coupé. C'est-à-dire qu'on est sur des dynamiques qui, en termes de temps, nous font prendre conscience que la nature a un rythme de fonctionnement qui n'est pas du tout le nôtre, et que se servir des rameaux nous fait prendre conscience que, sans doute, reconstruire une fertilité des sols agricoles, c'est quelque chose qui peut sans doute encore s'améliorer. On pourrait sans doute arriver, et là ce sont des agronomes qui le pensent, on pourrait sans doute arriver à des 10 ans sans nouvel apport, mais avec des cultures, des rotations et des cultures différenciées. Là, ça ouvre des portes énormes, parce que dans la carrière d'un agriculteur, si on lui dit tu fais un épandage tous les 10 ans, dans sa vie, il fera 4 épandages, et en termes de travail, c'est quelque chose qui est assez énorme, parce que je reprécise quand même que un sol de cause qui est dur comme du béton, et qui au bout de 3 mois est comme une terre de sous-bois, c'est-à-dire que j'y enfonce la main jusqu'au poignet, je le fais régulièrement parce que ça en fout plein la vue, c'est marrant, il y a Daniel Chollet aussi qui est là, qui fait ce genre de démonstration, on enfonce sur des sols qui étaient compactés, au bout de quelques mois, c'est-à-dire de quelques semaines en fait, et c'est très peu, même sur une saison de production, on est capable de transformer, mais en fait on n'y est pour rien. En fait, le sol se transforme de façon durable en plus, parce que 4 ans, j'estime que c'est durable, c'est pas les opérations qu'on fait tous les ans, tous les 4 ans, et que ça se fait sans nous. La seule opération qu'on a, c'est l'opération de coupe et de broyage. Et une fois que l'incorporation a été faite, ça va fonctionner pendant 4 à 5 ans sans nous. Et là, c'est, sans faire de philosophie, mais c'est quand même retrouver un peu de ce, de cette capacité de déléguer au sol le pouvoir de nous nourrir. Et je dis bien de déléguer de la responsabilité. C'est-à-dire que il faut arrêter de croire qu'on est les maîtres du monde et qu'on a tout compris. Il faut qu'on refasse confiance aux vivants. Et là, je dois dire que la tâche est rude parce que il n'y a plus que 5 minutes. Les OGM notamment nous apprennent que la lutte n'est pas terminée, elle est à peine commencée d'ailleurs, et que on a cette possibilité. Les Africains l'ont très vite compris. Nous, c'est vrai que le milieu agricole, mais renacle, y compris en agriculture biologique. Hein, je suis en bio, mais je dois dire que mes petits copains, l'ouverture, elle est difficile à faire parce que ça veut dire changer les habitudes, ça veut dire changer tout un tas de pratiques. Et déjà, l'agriculture biologique, pour un conventionnel, c'est déjà un changement de monde radical. Si en plus, on amène quelque chose qui est de ce type, et encore plus révolutionnaire que l'agriculture biologique, parce que là, je parle essentiellement du sol, les plantes, j'aurais pas le temps de le développer, mais les plantes, lorsqu'elles sont dans un milieu où il y a tous ces éléments vivants, et notamment les phénomènes de mycorhisation, dont j'aurai pas le temps de parler, parce que c'est un sujet très complexe, mais Claude Bourguignon l'a dit il y a 25, 30 ans même, les sols agricoles perdent leur fertilité, parce qu'il y a trop de minéral et que les champignons n'aiment pas le minéral. Si on redonne la possibilité aux champignons de se développer dans les sols agricoles, on a compris l'histoire et on est capable d'avoir des rendements. Alors chez moi, je vais vous donner des chiffres, ça dit pas grand-chose peut-être, mais 12 pieds de courgettes, 180 kg de courgettes, 600 pieds de tomates où je n'ai fait que planter et récolter 1 tonne 3 de tomates, sans arrosage, sans travail du sol. Rien que ces chiffres-là, ça donne une idée de la révolution que ça comporte, parce que ça veut dire aussi que si en Afrique, mon ami Edmond Zongo au Burkina Faso est capable de faire pousser du mil sur de la latérite 3 mois après avoir épandu des résineux broyés, si on est capable de faire ça, enfin si le vivant est capable de faire ça, on se dit mais on a gagné quoi, on peut faire pousser de quoi nourrir l'humanité sur pratiquement tous les sols. On risque de parler de beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas dites, notamment sur les traitements phytosanitaires, où on s'aperçoit, et là c'est une découverte de l'université de Kiev, qui a mis en lumière que les champignons ont leurs essences d'arbres privilégiées, que tous les champignons ont des actions enzymatiques différenciées, que ces enzymes ont des capacités d'association avec l'humus, et que ces éléments biotiques et abiotiques sont directement assimilables par les plantes en cas de stress, en cas d'attaque, en cas de pour résoudre des problèmes. Tout comme nous, on a des immunités et des anticorps pour parer à des maladies, les plantes ont la capacité de se soigner toutes seules. Il faut arrêter de considérer que les plantes, si elles sont malades, c'est parce que c'est quelque chose de l'extérieur qui vient et qui les fait mourir. C'est pas vrai, c'est parce que le sol est malade que la plante est malade.